France Inter. France Inter. Le 18-20, Éric Delvaux.
Une semaine en France consacrée ce soir à la place des bistrots dans les petites communes rurales, car depuis un siècle, les bars disparaissent en France. Il y en avait près de 500 000 en 1913 et puis seulement 200 000 dans les années 60. Il n'en restait que 35 000 en 2020, en rappelant que les deux tiers des communes françaises n'ont carrément plus de commerce. C'est donc l'âme d'un village qui disparaît. De quoi inquiéter les députés qui viennent d'adopter une loi pour faciliter l'accès à la licence 4, celle qui donne le droit de vendre des alcools forts. Il suffira désormais d'une simple autorisation du maire et ça ne concerne que les communes de moins de 3500 habitants dépourvues de bistrots. Bonsoir Yaël Gauze.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Avec votre regard politique, vous nous raconterez tout à l'heure les coulisses de cette loi.
Ouais, la licence 4, c'est pas seulement pour venir boire un petit coup à la maison, Eric. Un besoin de réseau social, en vrai, et pas seulement virtuel. Saviez-vous que les pratiques sociales des bistrots et cafés de France sont désormais inscrites à notre patrimoine national, culturel, immatériel ?
Eh bien, vous nous raconterez ça tout à l'heure. La question est donc ce soir de remettre le bar au centre du village, et nous verrons que, eh bien, tout le monde n'est pas forcément d'accord avec cette loi. Notamment des médecins qui estiment qu'il y a bien d'autres solution que la vente d'alcool pour redonner du lien social à une bourgade. La place du bistrot dans le village, on en parle jusqu'à 19h.
Éric Delvaux, le 18-20.
Avec un premier témoignage, nous partons en Haute-Marne. Nous sommes en ligne avec le maire de Vouécourt, commune de 200 habitants. Bonsoir Hugues Fischer.
Bonsoir.
Vouécourt fait partie des communes qui ont pu expérimenter cette loi entre 2019 et 2022. Quel bilan en faites-vous aujourd'hui ?
On a fait un bilan qui est tout à fait satisfaisant, parce que nous avons un bistrot qui est ouvert depuis 2022. Bon, il a changé de propriétaire l'an passé, et il est victime aujourd'hui de son succès. Donc ça nous remet un lien social de notre village qui en avait vraiment, vraiment besoin.
Eh bien, racontez-nous comment ce café-restaurant, je crois, a redynamisé la commune.
Tout simplement, nos villages sont des petits villages dortoirs, si vous voulez. Il n'y a plus beaucoup de monde dans nos communes la journée, la semaine. Il reste beaucoup d'anciens, de retraités, voilà. Et le fait d'avoir ouvert ce commerce de la commune permet aux gens, soit le soir en rentrant du travail, soit en pleine journée, des anciens, de passer, d'aller chercher leur pain, de boire un café, de se rencontrer, de discuter, de jouer aux jeux de société, et aussi de venir manger, parce que notre commerce fait aussi restaurant.
Et café, restaurant ouvert chaque jour, combien de couverts ?
Il y a environ une quarantaine de places assises. Là, en ce moment, je pense que la semaine, il y a en moyenne entre 25 et 35 couverts par jour.
Et après ce café, est-ce que vous attendez du coup peut-être d'autres commerces qui vont venir dans votre commune plus dynamique ?
Ah, je pense que ça sera compliqué, on n'a jamais que 200 habitants, c'est vraiment tout petit, on est dans un petit département, on est une population qui est plutôt en baisse. Donc que ce commerce-là fonctionne, ce sera déjà bien. On va rester modeste.
Et expliquez-nous, c'est une licence 4 qui est renouvelable tous les 3 ans, ça fonctionne comment alors ?
Alors c'est ça. Donc il y a eu la loi entre 2019 et 2022 où on pouvait prétendre à une licence à partir du moment où notre commune n'avait plus de licence depuis un certain temps. Je me rappelle plus exactement. Donc nous, notre commune avait perdu sa licence en 2003. Le dernier café avait fermé en 2003. Donc quand on a eu le projet de ce commerce, les travaux ont avancé. Au départ, on ne connaissait pas cette loi, donc on cherchait à acheter une licence qui est quand même assez coûteuse. Et on est passé par l'intermédiaire de 1000 cafés pour remettre en route notre commerce, et qui nous ont dit qu'on pouvait avoir une licence gratuitement. Donc c'est une licence 4. On a juste fait une demande en préfecture. Il fallait que les gérants aient la formation licence. Cette licence-là, elle est rattachée au commerce, au lieu. Elle ne peut pas être vendue, elle ne peut pas être cédée, elle suit le commerce, et si demain le commerce arrête, la licence s'arrête.
Expliquez-nous ça, cette licence 4 est attachée au bâtiment, elle ne pourra être ni revendue ni cédée à un autre établissement. Est-ce que c'est une bonne chose à vos yeux, ça ?
Oui, je pense que c'est une bonne chose. Faire un commerce d'une licence, je ne vois pas réellement l'intérêt, moi.
Ben, ça peut valoir parfois 50 000 euros.
Oui, bon, chez nous, on entend plus parler de 10 000 euros autour de chez nous,
oui,
mais ce qui est
oui,
déjà
ça
énorme.
Ça dépend du chiffre d'affaires, effectivement.
On a une petite commune, c'est un petit établissement. C'est la commune qui a porté le projet, qui loue aujourd'hui l'établissement à des gérantes. Mais notre but était était que le coût soit le plus faible possible. Donc d'avoir une licence gratuite, c'était super, quoi.
Un premier café-restaurant avait fermé en 2013, pour quelle raison ?
En 2003.
En 2003.
Ben, c'était pas un restaurant, il était seulement café, épicerie, et puis ben, peut-être le manque de motivation des anciens propriétaires, et puis voilà. J'étais encore jeune à l'époque, donc...
Oui, c'est un peu loin.
C'est un peu loin.
Et vous avez investi, votre commune a investi pour relancer ce café-restaurant, pour le remettre aux normes. Combien avez-vous investi ?
On a investi environ 350 000 euros, subventionné à entre 70 et 80%, et pour financer les 20-25% restants, on a vendu notre ancien presbytère, qui était un logement en location qui commençait à devenir vétuste. Donc voilà, on n'a pas eu besoin d'emprunter réellement pour financer ce projet.
Expliquez-nous aussi comment avez-vous choisi les nouvelles gérantes ?
Alors, on a pris qui on trouvait, parce que le problème, c'est que les candidatures...
Je sais pas si c'est un compliment, hein.
Non, je les adore, elles sont géniales. Si vous voulez, on n'a pas eu beaucoup de candidatures. C'est quand même très très restreint. Ça attire pas non plus beaucoup de monde, parce qu'il faut faire quand même beaucoup beaucoup d'heures. Il faut être très présent. Il faut beaucoup travailler. Donc les gens se pressent pas pour venir tenir un commerce comme celui-ci.
Mais d'ailleurs, est-ce que c'est une opération rentable pour les deux gérantes qui louent les locaux et donc la licence ?
Eh ben aujourd'hui, je vais vous dire que oui, c'est très rentable.
Votre café-restaurant ne désemplit pas, disiez-vous. D'où viennent les clients ? Essentiellement de votre village ou des alentours aussi ?
Alors, ils viennent de notre village, ils viennent beaucoup des alentours. Il y a les entreprises qui travaillent, on va dire, dans un rayon de 15 km, viennent manger le midi. Et après, le week-end, on a Chaumont qui est à 20 km, qui est notre préfecture qui est à 20 km. Les gens viennent de Chaumont pour les repas du samedi soir.
Gros succès.
Gros succès.
Durant les débats à l'Assemblée nationale pour cette nouvelle loi, on a entendu des critiques liées à un risque d'alcoolisme. Est-ce que c'est un risque que vous prenez au sérieux à vouer court ?
Je pense que les gérantes font très attention à ça. Et elles ne supportent pas de voir quelqu'un ivre ou qui a abusé, donc elles arrêtent de servir quand les gens abusent.
D'ailleurs, avant d'ouvrir ce café, je crois que les gérantes ont dû suivre une formation, vous le disiez, hein, une formation sur l'alcoolisme et les risques pour les plus jeunes.
Bien sûr.
Ça faisait partie du contrat ?
Oui. Et de toute façon, pour pouvoir tenir une licence 4, il faut faire la formation.
Mmh. Eh bien, merci beaucoup, Hugues Fischer, maire de Vouécourt. Merci de ce témoignage en Haute-Marne. Donc, merci d'être venu en direct sur France Inter. On va poursuivre ce tour de France des communes rurales qui redonnent vie à des troquets en explorant les conséquences pour le village. Nous partons dans l'Oise cette fois, précisément à Auger-Saint-Vincent, plus de 500 habitants. Et bien là-bas, le bar avait disparu depuis plus de 20 ans. Or, il y a 4 ans, le maire a impulsé la création d'un café associatif, un tiers-lieu citoyen avec licence 4. Reportage de Give Anctil.
C'est un charmant petit village, très tranquille, avec son église, ses vieilles maisons de belles pierres. Et une voiture de temps en temps qui passe sur la départementale 98. Et à vrai dire, je suis le seul. Sauf que je suis devant un bâtiment où il y a écrit le café citoyen. Et ça ouvre à 14h.
Bonjour madame.
Je suis encore en avance, moi. Toujours en avance.
Et vous venez pour le café ?
Ah,
moi aussi, vous voyez.
Comme d'habitude, hein. Encore dire c'est moi la première.
C'est quoi votre prénom sans indiscrétion ?
Yvette. Moi, il y a 90 ans que je suis à Auger.
90 ans ?
Ben, on est bien, hein, c'est un beau petit pays. Maintenant c'est notre pays, on l'adore. Hein. Nous on a connu, c'était plus vivant. Hein. Plus que maintenant il n'y a plus de commerce, hein, à part le café citoyen.
Et là ils vont venir ouvrir tout à l'heure ?
Ben, il y en a qui vont. Oui, il va venir ouvrir. Tiens, voilà Irène. C'est moi la première encore et puis tu vas pas.
Comment ça se fait ? Moi je suis retournée au téléphone. Je pensais que ça serait ouvert.
Bon, il est quelle heure ?
À 14h.
Pile. Vous, c'est Irène, c'est
Irène,
ça ?
Irène, voilà.
Ah, 14h.
Tiens, voilà Daniel.
Vous n'avez pas ouvert ?
Bah, vous ne m'avez pas donné les clés. Hein.
Je loupe plus belle la vie, là.
Vous loupez plus belle la vie.
Bah, c'est vrai qu'on attend que Daniel ait terminé son feuilleton.
Je viens après plus belle la vie, ouais.
Et puis, quand le feuilleton est terminé, il vient ouvrir le café. Oui.
Ah, on ouvre le rideau.
Ouais, bah moi, c'est Daniel. Je suis bénévole du Café Citoyen, d'Auger-Saint-Vincent. Bah, depuis Bon, quasiment à l'ouverture.
En 2021, c'est ça?
En 2021, ouais. Donc, du lundi au samedi, j'ouvre à 14h30.
Vous êtes là tout le temps?
Quasiment, ouais. Bah, moi, je suis en invalidité, donc c'est pour ça que je fais ça pour être utile, pour me passer le temps. Beaucoup de gens de l'extérieur aussi qui viennent.
Alors qu'avant, ils ne s'arrêtaient pas ici?
Qu'avant, bah non.
C'est pas un café traditionnel. C'est un tiers-lieu. C'est l'ancien presbytère qui a été transformé une partie en gîte, le garage en café. Donc, il y a une épicerie de dépannage. Et puis, là, vous avez la salle de spectacle avec la scène. Il y a des concerts, des conférences, il y a du théâtre. Et puis, c'est une salle aussi où on se réunit pour faire des jeux, pour parler, pour se rencontrer. Et puis, ce ne sont pas seulement les gens du village, mais ce sont les gens des villages aux alentours qui reviennent aussi boire un pot.
C'est rigolo, Irène, parce que là, tout à l'heure, je suis arrivé un peu en avance, avant l'ouverture. Ouais. Et j'étais tout seul et le village avait l'air absolument désert. Et puis là, en 5 minutes, là, on entend des gars qui sont arrivés, qui sont en train de discuter avec Daniel à la caisse. Vous, vous êtes là, tout d'un coup, ça fait plein de vie.
Et puis voilà, on est bien, on n'est pas des sauvages.
Bonjour. Hein. Avec nous.
Bonjour.
Comment ça va?
Bonjour.
Chantal.
Moi, c'est Nathalie. Au sein de l'association du Café Citoyen, on n'est que des bénévoles.
De toute façon, à la base, c'est un tiers-lieu.
Et heureusement qu'il existe, ça permet de créer du lien, vraiment.
Daniel.
On n'avait plus de lieu où se retrouver pour échanger, pour boire un café, les jeux de société. Le mercredi, c'est génial, parce que je regarde Yvette et puis Irène.
Ah bah Yvette, alors entre Yvette et Irène, ce sont les premières, hein, derrière la porte, là. C'est quand que ça ouvre? Enfin, elles sont au taquet, les mamies, là.
Daniel.
Et Yvette, un whisky comme d'habitude.
Vitel grenadine pour Yvette.
Je suis un peu à la bourre.
Non.
Francis Frison, pilier de la commune.
Francis Frison, c'est moi. Citoyen de l'Ouest Saint-Vincent depuis une cinquantaine d'années. Et mon voisin Dominique.
Dominique, je suis dans cette commune depuis un nombre important de décennies.
Bah là, on se retrouve. On parle de tout ce qui peut intéresser
la vie collective
voilà. Du lieu dans lequel on vit. Je peux profiter de ce que j'ai la parole, 30 secondes, pour parler des cahiers citoyens. Aujourd'hui, c'est un jour très important pour nous. Vous voulez que je vous raconte comment ça s'est passé? À Ougis-Saint-Vincent, Fabrice, le maire, donc, a pris la décision d'ouvrir la mairie et de proposer aux gens, à nous, là, tous, de venir exprimer ce qu'on pouvait avoir à exprimer comme idée sur la citoyenneté, notre pays, ce qui va pas, enfin bon. C'est une initiative extraordinairement intéressante qui ensuite a été reprise. Mais c'était ici.
Au tout début, ça a commencé ici. L'idée que le président Macron a repris après.
On va faire un grand débat.
C'est parti d'ici.
C'est parti d'ici. Au Gé-Saint-Vincent, il y en a eu 250 000 en France. Donc ce jour très important, c'est qu'à l'Assemblée, il y a un vote sur une résolution qui est en train de réexhumer ce que sont les cahiers de doléances et ce qu'ils peuvent apporter à l'ensemble de nos concitoyens.
En gros, en disant, les Français, on a demandé aux Français de s'exprimer. On se retrouve 5 ans après avec Laurence qui a installé sur l'écran la retransmission. C'est ça que vous avez prévu de faire? Des débats de l'Assemblée nationale?
Exactement, je crois que c'est marqué à l'ordre du jour. Discussion de la proposition de résolution relative à la publicisation des doléances du grand débat national.
C'est-à-dire, est-ce que oui ou non, on va ressortir du placard les doléances des citoyens français?
Exactement.
Et voilà comment ce café associatif, il ne triche pas sur ce qui a écrit sur son fronton, c'est café citoyen.
Donc on est en plein dans le vif du sujet.
Il porte très très bien son nom.
Le café associatif, le tiers-lieu citoyen, donc à Augé-Saint-Vincent, précisément, c'est dans l'Oise. Reportage de Guy Vanctil. Le bistrot, source de vie d'un village. On va en parler à présent avec Bernard Reynal. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le fondateur du label Bistrot de Pays, un label qui a été créé, je crois, en 1993. Expliquez-nous d'ailleurs ce qui a justifié la création de ce label qui valorise les bistrots en France.
Oui, j'avais la charge de développer l'aménagement d'un territoire, le mien, en Corrèze, et je me suis aperçu qu'effectivement, nous étions en pleine, dans les années 80, en pleine désertification rurale, l'école fermée, l'église fermée, j'avais bien sûr pas de moyens sur ces deux activités, mais il restait le bistrot, c'était les trois animateurs de l'époque dans un village. L'instituteur, le curé et le bistrotier. Donc il nous restait un seul levier, le bistrot. Le bistrot qui avait effectivement lui-même, qui connaissait lui-même quelques inquiétudes sur la reprise. C'était la plupart du temps des gens vieillissants qui ne voyaient pas leur bistrot continuer à vivre après eux. Donc il fallait effectivement prendre un levier très fort et lancer quelque chose de fort.
Qui valorise les bistrots de France. Comment expliquer le déclin des bistrots ? Il n'en restait en 2020, ce sont les derniers chiffres dont j'ai disposé, en 2020, il ne restait que 35 000 bars en France, alors qu'il y en avait encore 200 000 dans les années 60.
Oui, alors, il faut savoir qu'effectivement, et on peut féliciter le législateur, puisque on vous a parlé tout à l'heure de cette obtention de licence 4 très facilement et gratuitement. À l'époque où il y avait 200 000, 300 000 bistrots, on ne parlait pas trop de licence 4. Hein. Il y avait les grands bistrots qui avaient la licence 4, et puis les autres, il y avait une licence 3, une licence 2, ou pas de licence du tout. Donc effectivement, ils étaient comptés. Mais petit à petit, la loi voilà, est devenue, surtout la 46, la loi est devenue un peu plus ferme, et a fermé un certain nombre d'établissements qui n'étaient pas réglementaires, etc.
Expliquez-nous, dans un village, le bistrot, c'est devenu le lieu des cahiers de doléances, où on y entend presque tout ?
Alors, on y entend presque tout, surtout au niveau de la politique non politicienne, entre guillemets. On entend donc des rencontres, des échanges. Et nous, si vous voulez, dans la Fédération nationale des bistrots de pays, le sous-titre, c'est la convivialité retrouvée. Alors, elle n'est pas toujours retrouvée à la veille de certaines élections où on vit quand même quelques engueulades dans les bistrots, mais c'est très sympathique et ça fait vivre. Et l'intérêt, c'est que les gens, les autochtones, les gens du pays, se retrouvent bien chez eux. Ils soient chez eux. On vous l'a expliqué tout à l'heure, en attendant de rentrer à la maison après le travail ou après une après-midi de convivialité autour d'une table, certes pas forcément alcoolisée. Nous, on a vécu la loi Evin dans les années 91 déjà.
Oui.
Donc, et tout le monde me disait, oh là là, mais c'est fini, ils ne pourront plus boire, ils ne pourront plus fumer, etc. Alors certes, la loi Evin n'interdit pas de boire. Non,
la loi Evin, c'était l'interdiction de la promotion de l'alcool, surtout.
Voilà.
Bernard Reynal, on parle beaucoup depuis le début de l'émission, justement, des gens qui se parlent dans les bars ruraux. Est-ce qu'on n'est pas, ce soir, un peu... est-ce qu'on n'a pas une vision un peu idéalisée ? Parce qu'un bar, ça peut être aussi un lieu où les clients ne se parlent pas, où ils descendent des bouteilles pour noyer leur morosité. C'est ça aussi, peut-être, la réalité qu'on ne dit pas encore, ce soir.
Alors, ça peut arriver... Mais ça fait partie de mes 5 A, si vous voulez. Ça fait partie de ce que j'appelle l'ambiance. Si vous voulez, les gens se parleront, mais il faut un animateur. Et si le bistrotier est un vrai animateur, il laissera tranquille un client pendant quelques temps, et tout d'un coup, il va le mettre dans l'ambiance avec les autres. Ils vont discuter d'un sujet, de la pêche, de la chasse, du tourisme, de la vie, etc. Et il va s'intégrer.
Qu'est-ce qui, aujourd'hui, pourrait faire revenir un bar ? On a vu cette loi, mais quel levier, de votre côté, aimeriez-vous voir se généraliser ?
Bon, écoutez, le maire, que je félicite, le maire de Wicourt, qui a été à l'initiative de la réouverture 20 ans après de son bistrot, c'est ça, c'est une volonté politique, dans le bon sens du mot, au départ. Aujourd'hui, 50% des bistrots de pays en France, les murs appartiennent à la collectivité territoriale, et 50% donc au privé. Mais si ces 50% appartiennent à la commune, c'est que la commune a voulu réparer, on l'a entendu tout à l'heure, ou un presbytère, ou un autre équipement. On ne construit pas un bistrot, hein. On prend des locaux.
On adapte des locaux, oui.
Voilà. Et là, on lui donne une vie. On lui remet du bon mon cœur. Quelqu'un a parlé tout à l'heure de l'âme du pays, de l'âme du village, de l'âme du territoire. Et je crois que c'est le bistrotier dans sa façon d'être qui devient le coordinateur, qui remplace le curé, qui remplace l'instituteur, qui remplace des fois le maire quand il est pas trop disponible.
Merci beaucoup Bernard Reynal, fondateur donc du label Bistrot de Pays, un label qui n'est pas qu'un guide de bonnes adresses, hein, mais qui accompagne aussi la vocation de ces lieux de vie, vous en parliez, dans les communes rurales. Le troquet, question de santé publique aussi, la crainte de l'alcoolisme. On va en parler avec notre prochain invité juste après SCH sur Inter.
Je suis né avant les années 2000. Je veux voir voler les automobiles. Et les scènes sur ma photo de profil. Je pense à décembre, je pense à avril. J'ai la libé avant le mois. Dehors c'est la pluie, je m'en fous. Ce week-end, je vais au Costa Rica. Réunion, je traite les millions avec ma gueule de smica. A mépris pour que nous le restions. Pas d'ingestion, des émotions, c'est pas la question. Mais tu réponds aux questions par des questions. On crie jamais famine, on se débrouille comme d'hab. On taffe aux 3-8, on deal au bon pack. On crie jamais à l'aide, on fait avec et puis t'en aide, on s'en tape. J'vois mes cicatrices comme des forces, pas comme un handicap. Et j'bois ce whisky sans glace. J'suis né avant les années 2000. J'veux voir voler les automobiles. Et les cernes sur ma photo de profil. J'pense à décembre, j'pense à avril. J'ai la libé avant le mobile. Les années 2000. J'veux voir voler les automobiles. Et les cernes sur ma photo de profil. J'pense à décembre, j'pense à avril. J'ai la libé avant le mobile. J'ai connu le franc, j'ai connu le faux. Le daron dans la cadette 16. Dans un futal en velours. À siphonner des poids lourds. Le crissement du tourne-disque sur le vinyle des G-Duff. Le crissement du VR6 sur le poste avec un prise classe. La crâne est bien, défile sous mes yeux dans le tramway. Maman vend ses bijoux chez la tante. Quelques poubelles vont cramer. Mon reflet dans une flaque de pisse. J'fais des sourires au camel. J'rêve de quartier, bois, j'rêve de palais. Comme les damnés. Les années 2000. J'veux voir voler les automobiles. Et les cernes sur ma photo de profil. J'pense à décembre, j'pense à avril. J'ai la libé avant le mois. Les années 2000. J'veux voir voler les automobiles. Et les cernes sur ma photo de profil. J'pense à décembre, j'pense à avril. J'ai la libé avant le mois. Les années 2000, je veux voir voler les automobiles et les cernes sur ma photo de profil. Je pense à décembre, je pense à avril. J'ai la libé avant le mobile.
Je suis né avant les années 2000, chante SCH, ce rappeur de Marseille, né en 1993. Et un grand merci à Djoubaka pour la programmation musicale. Grand merci également à la technique ce soir. Derrière la vitre, Philippe Duclos, Fabrice Desmaz et Julien Thévenot. La suite d'une semaine en France. Voici notre troisième invité.
France Inter, le 18-20.
Car on s'intéresse au troquet, au bistrot ce soir dans les villages de France. Ces troquets censés redonner du lien social dans les communes rurales. Une loi d'ailleurs vient d'être votée à l'Assemblée pour favoriser l'implantation d'une licence 4. C'est aussi une question de santé publique. On en parle maintenant avec vous. Bonsoir docteur Basset.
Bonsoir.
Docteur Bernard Basset, vous êtes le président de l'association Addiction France. Addiction, on mettra un S. Et vous avez été auditionné d'ailleurs en amont du vote de cette loi. Quelles alertes avez-vous voulu lancer concernant les aspects sanitaires de cette proposition de loi ?
Alors, j'ai parlé effectivement des aspects sanitaires, mais je n'ai pas eu le temps de parler de la genèse de cette loi. Et la genèse de cette loi, c'est comme d'habitude le lobby de l'alcool qui, en 2017, a dit « faut augmenter les bistrots en France parce qu'on la consommation baisse, donc la seule manière, c'est d'augmenter l'offre. Il faut, pour augmenter nos profits, augmenter l'offre de boissons alcooliques en France. » Et ils avaient proposé, dès 2017, l'augmentation des licences 4. Derrière, il y avait un objectif marketing qui est compréhensible de leur part. Hein. Je veux dire, ils veulent augmenter leurs profits, c'est tout à fait, ils sont dans leur rôle. Mais évidemment, le présenter comme ça, ça passe mal. Donc il fallait l'habiller. Et comme d'habitude, quand on veut faire une atteinte à la santé publique, on trouve un dérivatif. Et le dérivatif, c'était de dire, c'est pour animer les campagnes. Donc on posait comme condition l'animation, à l'animation des territoires ruraux, le fait de boire de l'alcool. Ça n'a pas de soi. Quand on a entendu les témoignages, qu'est-ce qu'on disait ?
Qu'est-ce qu'ils disaient les gens ?
Ils disaient, oh ben, on est content de boire un café, on est content de débattre avec les copains, on est content de jouer aux cartes ou de faire un jeu de grattage, ou etc. On est content de débattre. Mais qui peut être contre ça ? Personne. Moi non plus. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas besoin d'alcool pour faire tout ça. Et on n'a surtout pas besoin de licence 4.
Parce que la licence 4, il faut expliquer ce que c'est. C'est une licence qui autorise des alcools dits forts, c'est-à-dire au-dessus de 18 degrés, je crois.
Au-dessus de 18 degrés. Il y a trois types de licences. La licence, la première licence est sans alcool, donc elle est totalement libre. Il y a une licence 3 qui est facile à obtenir et qui permet de vendre des alcools en dessous de 18 degrés, c'est-à-dire des vins, des bières, etc., quelques alcools doux, enfin des apéritifs doux, etc. Et puis la licence 4 qui permet de vendre des, ce qu'on appelle des spiritueux, du Ricard, du whisky, de la vodka, etc.
Si vous avez dit Ricard, il faut dire une autre marque, mais je ne sais plus laquelle. Alors,
la licence 3,
on passera outre.
Elle est facile à obtenir. Bon, elle permet, pour ceux qui veulent boire un peu d'alcool, déjà de boire de l'alcool. Mais le problème, c'est que ça a été repris dans le cheminement de ce projet par un ancien conseiller de l'équipe du président Macron, pendant sa campagne électorale, il s'appelle Jean-Marc Brelot, qui a promu cette histoire des 1000 cafés. Et pour faire ça, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait un partenariat avec Ricard et avec Kronenbourg. Donc le problème n'est pas devenu d'animer les villages, il est devenu vendre de l'alcool et vendre des alcools forts pour aider les sponsors. Donc, moi, je suis tout à fait d'accord qu'il y ait une animation des villages. Mais cette animation des villages, et on voit bien ce que disent les témoignages, c'est pas l'alcool qu'ils cherchent en premier lieu. C'est de prendre un café. Et ben pour prendre un café, il n'y a pas besoin d'une licence 4.
Le pouvoir des lobbies de l'alcool, dites-vous ce soir. On va parler des conséquences aussi. L'alcool, c'est près de 50 000 décès par an. Est-ce que les politiques publiques prennent ce chiffre au sérieux ? À vous entendre, non. Hein.
Alors, ce qu'on a vu surtout, et on l'a vu avec les enquêtes de Radio France, très bien faites, on a vu qu'il y a eu des censures de campagnes de prévention. Il y en a eu 3 qui ont été censurées, des campagnes de prévention de Santé publique France. Ces dernières années. Donc d'un côté, on favorise la consommation d'alcool, et de l'autre côté, on censure la prévention. Alors, je sais bien que c'est un regard d'un spécialiste de santé publique, le mien, mais c'est la réalité.
Ce que c'est aussi pour ça qu'on vous a fait venir ce soir, c'est pour avoir ce contrepoint. Je vais venir vers vous. Yaël Gauz, je me retourne vers vous aussi pour le volet politique. Cette loi qui facilite l'obtention d'une licence 4 pour les communes de moins de 3500 habitants, elle était déjà au cœur des débats lundi dernier, donc à l'Assemblée nationale.
À l'Assemblée et bientôt au Sénat, quand le texte porté par l'ancien ministre et député de l'Eure-et-Loir, Guillaume Kasbarian, aura poursuivi sa navette.
Chers collègues, nous savons qu'en ville comme à la campagne, ils permettent de maintenir et parfois recréer du lien social. C'est dans cet esprit que j'ai porté cette proposition de loi qui vise à simplifier l'ouverture des débits de boissons en zone rurale.
Et hormis quelques amendements, à la fin, un très large consensus, 174 voix pour, 2 contre chez les Insoumis au nom de la lutte contre l'alcoolisme. Le RN pour lui aussi, mais gêné qu'un député Renaissance vienne marcher sur ses plates-bandes électorales.
Alors que M. Macron est au pouvoir depuis 7 ans, votre arrogance vis-à-vis de la France périphérique n'a cessé de croître. Une France délaissée pour compte, à qui vous cherchez de donner des gages à l'approche des élections municipales.
Mais ce sera pour quand même le député ciotiste Éric Michoud, propos recueilli par Laurence Perron.
Et cette loi Kasbarian, Yaël, elle n'est pas la première tentative politique pour réhabiliter les cafés.
On en parlait un instant avec Bernard Basset. Début 2020, le gouvernement d'Édouard Philippe tente d'enrayer cette désertification des bistrots avec un programme baptisé 1000 cafés. Un encadrement, un coup de main pour investir et oser se lancer, mais le Covid est passé par là. Bilan plus que mitigé, 130 communes accompagnées, 92 établissements en difficulté temporairement soutenus et quelques cafés ambulants. Le soutien, il vient aussi de Rachida Dati au ministère de la Culture qui a inscrit au mois de novembre les pratiques sociales et culturelles des bistrots et cafés à l'inventaire national du patrimoine culturel immatériel, ce que le restaurateur Alain Fontaine à Paris réclamait depuis des années.
Il n'y a pas marqué liberté, égalité, fraternité comme sur les frontons de la République. Et pourtant, c'est ce qui se passe ici concrètement. Vous avez des ouvriers, vous avez des cadres, vous avez des professions libérales. Un bistrot et un café accueillent tout le monde.
Sur France 2, c'était sur France 2 à La Fontaine le 8 novembre dernier.
Disparition des cafés en France, qui faut-il blâmer au final ?
Bah, nous-mêmes. Nous-mêmes, Eric, c'est bien d'agiter la nostalgie d'une France de cartes postales, sépia, mais c'est la société qui a changé. Le temps de travail, le télétravail, la grande distribution, George Clooney et ses machines Nespresso, comme le rappelle très justement Jean-Laurent Casselli, auteur d'une étude sur la France des bars tabac.
Souvent sur le principe, quand dans la presse locale on parle d'une réouverture, tout le monde dit au commerçant « Ah, c'est vraiment génial, je vais venir chez toi ». Et on s'est rendu compte dans l'enquête que bah, parfois une partie de la population joue pas vraiment le jeu, parce que parfois il y a un peu de méfiance, effectivement, et que par ailleurs, les gens bah, à la campagne, ils ont pris d'autres habitudes avec le tout voiture. Ils vont effectivement au supermarché, dans la zone commerciale de périphérie. Donc c'est pas toujours facile de recréer un dynamisme dans le centre du village.
Jean-Laurent Casselli sur Ici, ex-France Bleu, le 7 février dernier.
Et Yael, est-ce qu'au plus haut niveau de l'État, on soutient les bistrots, les bars, les cafés de France ?
Oh oui, quand on s'appelle Emmanuel Macron, qu'on veut renouer le lien après une dissolution incomprise et qu'on a un agenda un peu vide, un petit kawa sur le zinc, c'est le décor idéal. C'était vrai avant que le dossier ukrainien ne remobilise le chef de l'État. Mais le 30 janvier dernier, incognito, sans caméra ni journaliste, le président passe par Hirson, dans l'Aisne, au Café du Commerce. Katia était derrière le comptoir.
Quand je l'ai vu rentrer, je me demandais si c'était pas un sosie ou... J'étais choquée, en fait. Je tremblais de partout quand il est rentré. Il a pris un café, il a pris un grattage.
Il a
comme
payé
un client normal.
Il a payé comme un client normal ?
Oui, c'est ça.
Katia, qui a donc cru un sosie, jointe par BFM. L'amour des cafés et du café, pardonnez-moi, c'est pour cette transition et ce saut dans le temps que je vais faire, mais ça n'a pas été toujours le cas de nos dirigeants. 1669, Eric, l'ambassadeur de l'ex-empire ottoman se présente devant Louis XIV pour lui faire déguster une nouvelle boisson qu'on appelle le kawa. Le roi goûte, mais ça va pas, c'est trop cher, c'est trop amer. Fin de l'histoire ? Non. Deux Arméniens s'accrochent à l'idée. Ils vendent le kawa sur le marché de Saint-Germain, succès fou. Et un certain Procopio dei Coltelli, un jeune Sicilien, ouvre le premier café de Paris, le Procope. Anecdote à retrouver dans un ouvrage signé par Gérard Le Tailleur, Histoire insolite des cafés parisiens.
Eh bien, merci de ce rappel, Yael Gauss. Docteur Basset, président de l'association Addiction France, il nous reste quelques secondes. Que proposez-vous de mieux qu'un bar pour dynamiser et rendre du lien social dans un village ?
Mais on l'a dit, il y a des cafétérias. Des cafétérias avec des commerces, avec des points relais, avec des lieux de débat. L'animation locale, elle ne se résume pas à boire des alcools forts. On peut faire des tas de choses si on est un maire dynamique et si on a de l'imagination. Quand j'ai été entendu par le député Kasparian, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, vous manquez d'imagination pour nos campagnes.
Merci beaucoup, docteur Basset, donc, d'être venu nous éclairer ce soir. Je rappelle que vous êtes le président de l'association Addiction France. Redonnons du lien social dans les communes rurales avec de la modération qui s'impose dans les bars. Et on retiendra donc qu'il y a bien d'autres leviers que l'alcool et que les débits de boissons pour animer une bourgade. Merci, docteur, et bonne soirée. La musique à présent, voici Portugal The Man, Feel It Still, et c'est très bien aussi pour ambiancer un bar. La musique dans Une semaine en France, c'était Feel It Still du groupe Portugal The Man, un groupe originaire d'Alaska. Dans un instant, nos amis du réseau ICI, le temps de remercier l'équipe de ce vendredi, Juliette Gou à la réalisation, Frédéric Barrère à la rédaction en chef et Iris Vertanessian, grand merci pour son aide précieuse. Il est 18h53.
France Inter, le 18-20, Éric Delvaux.
L'actualité en région, à présent l'actualité d'ici et d'ailleurs, avec l'indispensable concours de nos consoeurs, nos confrères du réseau ICI. Nous sommes en ligne avec ICI Provence, ICI Loire-Océan, ICI Brésisel, Damien Triomphe, Marion Fersing, Baptiste Schweitzer, bonsoir à tous les trois. Dans les Bouches-du-Rhône, Damien Triomphe, dans les Bouches-du-Rhône, rencontre avec ce maire de 95 ans, le maire du Rove, qui vient donc de quitter son fauteuil.
Oui, au bout de 10 mandats, vous imaginez, Georges Rousseau, 44 années en tant que maire du Rove. Hein, c'est une commune autour de 5000 habitants, limitrophe de Marseille. Les gens sur place nous disent qu'ils l'ont toujours connu. Évidemment, 95 ans, on le regrettera énormément. Il a fait beaucoup pour le Rove, nous a avoué un habitant. Georges Rousseau a su préserver sa commune de l'urbanisation galopante. Alors lui, ici, on m'appellera toujours monsieur le maire, s'enorgueillit le vieux monsieur communiste. Son meilleur souvenir en visite à l'école, des enfants qui parlent entre eux. L'un demande pourquoi le maire est là, l'autre répond parce qu'il nous aime. Alors voilà, vous l'aurez compris, Georges Rousseau a marché à l'affect pendant toutes ces années. Mais à 95 ans, il reste quand même un politique. Il continue à siéger à la métropole en tant que vice-président parce qu'il sait bien que 80% des intérêts de sa commune sont là-bas, explique-t-il. Il reste conseiller municipal pour organiser les élections dans un an. Alors il passe la main à son premier adjoint pour mieux l'y préparer. Premier adjoint qui n'est pas un petit jeune, hein, 72 ans, en poste depuis 1983. Les municipales 2026, dernier défi de Georges Rousseau, le maire qui ne réussit pas à la succession. Il a tout échoué, nous a-t-il dit sur ICI Provence.
Après ICI Provence, nous partons à Rézé, près de Nantes, Marion Fersing, pour le rendez-vous annuel des unités d'habitation Le Corbusier, à la découverte donc ce week-end de la Maison Radieuse, moins connue que la Cité Radieuse de Marseille.
Oui, même si elle en reprend les codes, hein, elle est elle aussi conçue comme un village vertical sur pilotis, avec les couloirs qui font office de rue, des commerçants dans le hall, un marchand de journaux, un bureau de poste qui ont fermé hein, depuis bien longtemps. Mais il y a toujours un petit marché le mercredi après-midi dans cette maison radieuse de quasiment 300 appartements, avec deux spécificités. Ce n'était que des logements HLM au départ. Et il y a une école maternelle sur le toit, l'école la plus haute de France sans doute, 52 mètres de haut tout de même, avec une vue imprenable sur Nantes, et des élèves qui y montent en ascenseur 70 ans après l'arrivée des premiers habitants.
Ouais, des habitants, Marion, qui avaient essuyé aussi quelques moqueries au départ. Hein.
Oui, quand ils intègrent leurs appartements, nous sommes donc en mars 1955, dans la France de l'après-guerre, et trois ans après la fin de la construction de la Cité Radieuse de Marseille. C'est d'ailleurs ce que les premiers habitants entendent comme réflexion. Ils habitent dans la maison du Fada, c'est le surnom de la Cité Radieuse de Marseille, dans des cages à lapins. C'est ce que nous ont confié deux habitants de toujours, de sa version reuséenne à côté de Nantes. Ils étaient enfants à l'époque, et quelle modernité pour eux avec le chauffage au sol, une vraie salle d'eau, plus besoin de se laver dans l'évier de la cuisine. C'est ce qu'ils vont raconter ce week-end lors de ce rendez-vous annuel des 5 unités d'habitation Le Corbusier d'Europe, Marseille, Rezé, Berlin, Briey-en-Forêt près de Metz et Firminy dans la Loire.
La maison radieuse de Rezé, on en parlera ce week-end près de Nantes. Plus à l'ouest encore, Baptiste Schweitzer, la Bretagne ne produit pas que des artichauts, des choux, des pommes de terre et des tomates. Elle vend désormais de la vanille bretonne.
Oui, effectivement, les premières gousses bretonnes ont commencé à être vendues en toute fin d'année dernière, alors pour l'instant juste pour les professionnels. L'idée des trois producteurs qui ont lancé ça en 2019 et qui sont installés dans les Côtes d'Armor, pas très loin de Paimpol, c'est bien de monter en puissance. Mais vous imaginez bien que faire pousser de la vanille, c'est pas aussi facile que planter des choux, puisque tout ou presque, se fait à la main. Et ce qui se passe en ce moment, depuis quelques jours, ça va durer encore un peu, c'est la pollinisation des fleurs. Et oui, parce que l'abeille, l'insecte qui pollinise la vanille ne se trouve qu'au Mexique. Elle s'appelle l'abeille Melipona. Et donc, il faut faire ça, eh bien, fleur par fleur, féconder ces fleurs avec un petit cure-dent. Et une fois que c'est fait, eh bien, les gousses vont commencer à grossir. Il faudra les masser, les récolter, les affiner. C'est 18 mois de travail pour ces producteurs qui réussissent à faire une vanille réputée grasse, riche en vanilline et délicieusement parfumée. C'est en tout cas comme ça qu'elle est présentée. Alors, vous allez me demander pourquoi la Bretagne ? Eh bien, parce que le climat lui réussit, semble-t-il, parfaitement. Cette orchidée si fragile n'aime pas la chaleur, n'aime pas les excès de lumière. Donc, en Bretagne, je dois vous dire qu'elle est vraiment pas mal. Les producteurs espèrent, avec cette nouvelle variété, avec cette nouvelle production, eh bien, réussir à faire ce qu'ils ont réussi, ce qu'ils ont fait il y a des années de cela avec les fraises, et notamment la Garriguette, qui fait désormais la réputation de Plougastel. Garriguette que l'on trouve d'ailleurs, pour la petite histoire, depuis 15 jours désormais sur les marchés du département.
Eh bien, merci à tous les trois, ici Provence, ici Loire-Océan, ici Brésisel.